Février 2022. Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil cette nuit, consultant sans arrêt mon téléphone, de crainte de louper un appel de l'hôpital. Rien. J'essaie d'y voir du positif et de me dire que l'état d'Emeric ne s'est pas aggravé. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il n'y a donc pas eu non plus d'amélioration et que mon mari est toujours dans le coma. Dans la salle de bain, j'effleure le tube de crème pour le visage que je lui ai acheté il y a quelques mois. Il s'était offusqué, affirmant que le jour où il se tartinerait de crème n'était pas venu. Le tube est presque vide. Comment vais-je faire sans toi, Emeric, si jamais... Je chasse cette idée aussi vite que je le peux. L'hôpital n'a pas appelé. Emeric est toujours en vie. Avant de prendre la route de l'hôpital, j'ai envoyé un message à Justine. Il était temps, je ne lui ai pas donné de nouvelles depuis hier. Je suis touchée par sa sollicitude, mais je ne parvenais pas à formuler ce simple fait. Emeric est dans le coma. Il m'a fallu plusieurs minutes, rien que pour réussir à écrire ces cinq mots qui sonnent comme une condamnation. Elle m'a aussitôt répondu qu'elle pensait fort à moi et m'envoyait du courage, que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il ne fallait pas que j'hésite. La seule chose dont j'ai besoin, c'est Emeric. Emeric conscient. Justine va prévenir nos supérieurs de mon absence. J'ai des dizaines de jours de récupération à prendre. J'aurais préféré les utiliser dans d'autres circonstances. J'attends Sophie. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait réussi à poser sa journée. Elle vit à moins d'une heure d'ici. Néanmoins, elle a pris la route avant même le lever du soleil. Elle non plus n'a pas beaucoup dormi. Je la vois qui se dirige vers moi d'un pas rapide. De loin, je distingue ses yeux gonflés par les pleurs et le manque de sommeil. Je ne vais pas y arriver. Elle se précipite dans mes bras, en larmes. Des gens passent à côté de nous sans ralentir le pas. La scène doit être ordinaire. Il y a des lieux comme celui-là où l'on ne s'étonne pas de voir pleurer des gens. Il en va ainsi des hôpitaux comme des quais de gare. Même si je ne la comprends pas toujours et que j'ai parfois du mal à suivre ses lubies, tantôt régime paléo, tantôt lithothérapie, en passant par les cures de jus, j'aime Sophie comme une sœur. Elle n'avait pas 10 ans lorsque j'ai rencontré Emeric, grâce à elle d'ailleurs. Je me suis très vite attachée à elle. Fille unique, j'ai toujours eu envie d'avoir un frère ou une sœur. D'autant plus lorsque mes relations avec ma cousine Anita se sont détériorées. « Il va s'en sortir, hein? Il va s'en sortir !» bredouille-t-elle en s'écartant de moi. Je voudrais lui répondre que oui, qu'Emeric est fort et en bonne santé. J'en suis incapable, parce que, comme elle, je suis morte de trouille, alors je ne dis rien. Sophie laisse échapper un gémissement lorsqu'elle entre dans la chambre. Ses jambes se dérobent et je la rattrape in extremis avant qu'elle ne s'effondre sur le sol. Emeric est tel que je l'ai laissé hier, branché à ses tuyaux et à ses machines qui le maintiennent en vie. Les hématomes sur son visage, ainsi que sur le haut de son torse, sont plus marqués. Ses traits sont crispés, trahissant les douleurs qu'il doit ressentir, en dépit des propos rassurants de l'infirmière hier. J'ai la tête qui tourne, et bien que mon estomac soit vide, je suis au bord de la nausée. Dans mes bras, Sophie sanglote, et je n'ai qu'une envie, lui hurler d'arrêter, de se taire. Je n'ai pas besoin de ça. Mon mari est dans le coma. Je n'ai pas besoin d'une sœur qui craque. Je n'ai pas l'énergie pour soutenir quelqu'un d'autre. Je suis monstrueuse. Je me détache de Sophie et m'approche du lit. La chaise sur laquelle je suis restée assise si longtemps hier n'a pas bougé. Emeric non plus. Ses bras reposent toujours le long de son corps, ses paupières restent immobiles. Je sens monter en moi un instinct puissant, presque incontrôlable, de le secouer par les épaules pour qu'il se réveille. Peut-être que si je le remuais de toutes mes forces, il reviendrait à lui. Et si je criais? Peut-être que ça l'atteindrait, là où il est. Personne ne peut rester sourd face à un cri perçant, si? Pas même quelqu'un dans le coma. Le docteur Chèvrefeuille tout saute. Nous sommes assises, Sophie et moi, dans son bureau.
Lorsque les secours nous ont amenés, M. Fleury, hier, les examens ont montré qu'il présentait un hématome extradural. Il s'agit d'un épanchement de sang entre un os du crâne et la dure mère du cerveau qui est dû à la rupture de l'artère méningée moyenne.
Commence-t-il à nous expliquer.
Nous sommes intervenus immédiatement pour aspirer l'hématome et avons réalisé une hémostase afin de stopper l'hémorragie.
Docteur, s'il vous plaît. Il toussote à nouveau.
Il s'agit d'une complication grave consécutive à un traumatisme crânien. L'hématome était volumineux, exerçant une forte pression sur le cerveau de votre mari, ce qui a occasionné son inconscience prolongée. Nous avons stoppé l'hémorragie. Il faut attendre maintenant. Il n'y a rien de plus que nous puissions faire.
Comment ça, il n'y a rien de plus que vous puissiez faire ? Réagit Sophie. Ça veut dire que mon frère va rester comme ça ?
Cela veut dire que nous ignorons à quel point son cerveau a souffert de la pression exercée par l'hématome. Nous ne savons pas s'il va se réveiller. Et si tel est le cas, s'il présentera des séquelles.
Je sens le sol se dérober sous ma chaise. Tout devient noir.